Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les siffleurs de la critique Sophie Avon de Sud-Ouest. C'est pas évident à faire. Avec Charlotte Lipinska de Vogue, Michel Simon de Positif, Eric Neuf du Figaro pour parler ce soir des siffleurs, mais également des films de Ferrara, de Sam Mendes, de Lulu Wang, de Jeanne Balibar, de Laurent Henneman et de William Eubank, pour ceux qui l'auraient vu, dans le courrier de la semaine, à l'exception de Nicolas Blanchot de Vincennes, qui n'a pas aimé Une vie cachée de Terrence Malick. Les intentions sont louables, le résultat est lourd et indigeste, c'est un parpaing de 3 heures, à l'exception de Lise Massé de Bourg-les-Valence. Méritions-nous vraiment ces 3 heures de calvaire pour quelques moments de grâce divine? À l'exception d'Aline Geoffrey, Terrence Malick en fait trop avec le symbolisme des beaux paysages. Et pensez à l'ami Ricoré pour le charme familial d'antan dans une scène nature. C'est long, long et d'un manichéisme écœurant. Eh bien, nos auditeurs sont sortis en lévitation du film de Malick. Anne-Marie Valex de Clermont-Ferrand, tant de beauté nous donne la sensation de respirer un air raréfié. Bruno Gouriou de Brest, je suis incroyant et j'ai été transporté par ce film divin sur l'éblouissement. Monsieur ou Madame Henbel parle d'une sublime ascension humaine et spirituelle faite de courage, d'amour et de foi. Chaque plan est d'une beauté sidérante, une œuvre d'art en soi. Pascal Hénard, c'est tellement beau que j'en ai pleuré. Larmes aussi de Bertrand Ducasse. J'ai vu 2 fois Une vie cachée au cinéma en une semaine et j'ai fondu en larmes. Je n'avais pas pleuré au cinéma ainsi depuis 14 ans. Pour Philippe Chavernac, c'est un film sublime, du latin sublimis, élevé dans les airs, qui touche à l'indicible. Même mot pour Monsieur ou Madame Deschamps qui habite l'Ardèche. Ce film est sublime. Et je dirais à Eric Neuhoff, s'il trouve que le monde n'est vraiment pas beau, qu'il peut venir chez nous en Ardèche, on l'emmènera se promener, il pourra se reposer et reprendre des forces. Jean-Luc Clairet est bouleversé par la défense vibrante d'une vie cachée par un Eric Neuhoff inédit, remplaçant le scalpel délectable de son humour par des torrents d'émotions contenues dans la voix pour constater que la beauté est devenue insupportable dans un monde où les artistes comme Malick s'efforcent de reconstruire ce que d'autres s'évertuent à détruire. Michel Simon, Eric, épousez-moi, ajoute Delphine de Paris. Grâce à vos critiques, j'ai eu la chance de ne pas louper le film de Malick. Une vie cachée apporte de la lumière dans une période où nous nous habituons au cynisme, à la lâcheté, à la grossièreté et au feu de forêt. Michel, Eric, épousez-moi, mon compagnon est d'accord.
Alexandre,
ça gâche tout la fin.
Alexandre juge qu'il faut vraiment avoir un cœur de pierre et une poutre dans les yeux pour passer à côté de cette histoire bouleversante, sublimée par les images d'une nature en majesté. Je plains Camille Nevers et Xavier Le Herpeur de ne pouvoir être touchés par la grâce de ce film. Voilà. En revanche, pluie de méchantes critiques pour La vérité de Kore-eda, comme Roger Salamé de Paris. La vérité, si je mens pas, est une daube d'un insondable ennui, scénario filandreux, intrigue sans intérêt et nombrilisme parisiano-culturel insupportable. Et pour Hélène Mercier-Testard de Gilles Lee sur Isère en Savoie, le film de Kore-eda est exaspérant, artificiel, outré. Pour ce qui est de l'opposition, mère-fille, retournez voir Sonate d'automne et vous mesurerez la différence entre un grand film et un film médiocre. Pierre Cusor se demande ce qu'a été faire Kore-eda dans cette galère où chaque personnage est enfermé dans un stéréotype dont il ne sortira jamais. Seul Arnaud Sanquer estime que Deneuve et Binoche éclaboussent de leur talent ce film de famille sensible et apaisé. Allez, on commence avec 1917 de Sam Mendes, évidemment, avec George Mackay, Dean Charles Chapman, Mark Strong, avec aussi, quand même, il faut le savoir, 2 Golden Globes et pas moins de 10 nominations aux Oscars. Et à mon avis, il va en rafler pas mal. C'est une plongée dans l'enfer de la Grande Guerre avec deux jeunes caporaux britanniques, Schofield et Blake, c'est donc McKay et Chapman. Ils ont pour mission de traverser les lignes ennemies afin de délivrer un message qui pourrait, je dis bien qui pourrait, empêcher une attaque anglaise où périraient 1600 soldats, dont le frère de Blake. L'idée de Mendes étant de donner l'illusion, qui marche pas toujours, mais l'illusion d'un plan séquence unique avec une caméra qui court de tranchée en tranchée, qui saute au-dessus des barbelés, qui enjambe les cadavres et ne s'arrête jamais pour que le spectateur soit immergé en temps réel dans la boue de cette grande guerre. Ça dure presque 2 heures. Mission réussie selon vous, Sophie ?
Oui. Je dois dire que j'ai été bouleversée par le film. J'ai marché complètement sur les cales de tir. J'ai été emportée, j'ai été subjuguée. Je trouve que la façon dont Sam Mendes montre la guerre comme cette guerre-là, comme un boyau unique et solitaire, où on voit pas beaucoup les adversaires,
qui conduit. C'est d'autres boyaux qu'on voit. Aussi.
Ouais. Qui conduit inexorablement de l'autre côté des lignes, mais évidemment de l'autre côté du miroir, surtout, et qui en passe par le royaume des morts. Parce que cette idée qui hante le film, que la guerre, c'est la mort, même si on en réchappe. Parce que même si on en réchappe, on meurt à soi-même. Et puis on perd tout, son innocence, ses amis, ses illusions. Je trouve que c'est très fort. J'ai lu quelque part que le film n'avait pas de point de vue. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça, parce que cette idée-là, c'est un vrai point de vue, et elle est certes pas forcément originale, mais elle est vraiment magnifique et incarnée. C'était vraiment un film sur la condition humaine. C'est non seulement un film d'apprentissage,
mais c'est
un film...
Si tu permets juste, mais le fait de nous mettre vraiment presque comme le troisième...
Oui, alors ça, j'y viens après, parce que
c'est aussi un point de vue.
Absolument, parce que et en plus, c'est pas juste une performance technique, voilà. Mais c'est aussi une façon de penser la forme qui est aussi très très intéressante. Mais c'est vraiment un film sur la condition humaine où tout, sans être lugubre, le film où enfin même ce ruisseau où à un moment ce fleuve où à un moment le personnage se laisse dériver, emprunte à la mythologie et on pense irrésistiblement aux Styx. Enfin, tout nous ramène à ça. Et pourtant, bon, on n'est pas obligé de mourir pour connaître la mort, c'est ce que le film dit. Et en effet, la forme est, je trouve, très forte et très pensée, parce que ces héros en passent par tous les états, sont comme dans une lessiveuse en permanence, et ils sont régurgités par la fiction comme ça, mais à la fin, on ne sait plus. Et la forme du film, elle aussi passe par tous ces états et n'en finit pas. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très réaliste, on est dans un film d'action, on est dans un film de guerre, on est dans une chronique, on est presque dans une romance, et à un moment donné, on bascule dans du surnaturel. On est vraiment dans un film fantastique et qui est produit presque par la surenchère de réalisme, je dirais. Et ça, je trouve
parce
que c'est
une
ampleur.
Parce qu'on sent aussi un peu traumatisé, enfin au sens physique.
Mais voilà,
du
mais
terme,
on est même. dans la lessiveuse avec eux, en effet, comme tu le dis, et la forme accompagne ça très bien.
Michel,
je suis très partagé. C'est-à-dire, évidemment, c'est le film le plus spectaculaire et le plus cinématographique de la soirée. Incontestablement, c'est un film important. Mais en même temps, je suis partagé parce que d'une part, j'admire le projet de Sam Mendes qui est sur une guerre statique où les gens étaient embourbés et ils n'avançaient pas. Ils avançaient d'un mètre.
C'est l'idée du film, hein.
Oui. Et là, de faire justement un film sur des gens qui courent sans arrêt, c'est un film complètement dynamique, comme un film de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si la Première Guerre mondiale ressemblait à la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est tellement brillant, acrobatique, avec ses plans séquences extraordinaires, que finalement, on admire plus la prouesse technique que l'émotion qui devrait naître. Moi, j'ai pas été véritablement ému comme je l'étais par Les Sentiers de la Gloire, par exemple, de Kubrick, qui est en plus une analyse du rapport de force entre les gradés et les troufions. Là, j'ai pas du tout senti une véritable émotion. Il y a une sorte de distanciation qui est créée par la maîtrise technique.
T'as eu aucune émotion.
Même à la fin, t'as pas été ému?
Non, mais parce que je trouve qu'il n'y a pas un vrai point de vue sur cette guerre que Kubrick a fait, que Rosie a fait, que Lozay a fait. On a vu cela. Alors c'est plus
un film d'immersion. A combattu.
C'est plutôt un film d'immersion plutôt que de réflexion. C'est un film où on est plongé.
C'est un film pensé, Michel, quand même. T'as raison, c'est l'immersion physique, mais il est pensé, ce film. Il est réfléchi.
J'ai pas dit le contraire. Je pense que Sam Mendes est un grand metteur en scène de théâtre qui, quand il fait du cinéma, veut montrer à tout prix qu'il n'est pas un homme de théâtre. C'est-à-dire qu'il veut faire vraiment du cinéma. Et il le réussit parce que son film, encore une fois, est virtuose. Mais c'est autant le film de Roger Deakins, un immense chef opérateur, qu'un film de Sam Mendes. Et en plus, ce qui me gêne, c'est le postulat de départ. C'est-à-dire, moi, je croyais que pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient le morse, ils avaient des moyens, le commandement avait un moyen d'envoyer des messages. Ils n'avaient pas obligé d'envoyer deux troufions, traverser toutes les lignes ennemies et risquer de se faire tuer.
ils le disent, les lignes ont été coupées, toutes les lignes de communication, ils ne peuvent pas faire autrement.
Oui, enfin, ça convient à son film.
Oui, mais c'est une fiction.
Je n'ai pas tellement entendu parler dans la Première Guerre mondiale de lignes coupées. Les gens réussissaient tout de même à communiquer. Enfin, cela dit, c'est un détail. Je trouve en tout cas que c'est un film à voir absolument, mais qui n'est pas le grand film que j'aurais aimé voir.
Qui fait d'ailleurs cette semaine un très grand démarrage en salle. Eric.
C'est normal.
Je ne sais pas si c'est un grand film, mais en tout cas, c'est un très bon film. On est assis là et tout d'un coup, on se retrouve embarqué dans ce cauchemar dont les héros, eux, ne vont pas se réveiller parce qu'on voit ces deux gamins. Ça commence de façon très bucolique. Là, ils sont en train de faire une vague sieste dans un champ et puis paf, ils vont se retrouver en enfer. Et ce qui est bien aussi, c'est que ces deux soldats, ils n'ont pas grand-chose en commun et on ne sait pas tellement ce qu'ils ont fait. Il y en a un qui sort de la bataille de la Somme et l'autre dont le frère fait partie des soldats qu'il faut sauver. Mais sinon, ils ne se ressemblent pas, ils apprennent à se connaître et ils sont là malgré eux. Et on voit ce parcours, là, cette espèce d'odyssée là, au milieu des cadavres, des champs de mines, des barbelés. Et le côté plan-séquence unique, c'est peut-être de la virtuosité gratuite, mais ça sert beaucoup le propos, je trouve. On est avec eux, on est embarqué, et c'est une fuite en avant.
Boyau, hein.
Et ça doit durer 24 heures, et ça en dure que deux. Mais on sent le temps passer, et puis on passe par tout un tas d'épisodes et de sentiments. Il y a une scène magnifique à un moment donné, où l'un d'eux tombe dans une cave sur une jeune fille, avec son bébé qu'elle ne peut pas nourrir. Et là, on bascule tout d'un coup dans quelque chose de très romanesque, de très sensible, de très tendre et de bouleversant. Et puis, il y a un accident d'avion, il y a la trahison, comme le dit Sophie, il y a aussi l'innocence qu'on voit fondre petit à petit là, au cours du trajet de ces deux gamins qui ne seront plus jamais les mêmes, et pour cause, et qui se souviendront toute leur vie de ce qui s'est passé pendant ces 24 heures, et c'est vraiment une journée inoubliable, même pour le spectateur.
La scène avec la jeune fille est reprise à La Grande Illusion. Il y a exactement la même scène.
Un petit peu, mais c'est pas un défaut.
Charlotte.
Oui, et puis l'avion, on pense à Hitchcock, bien évidemment. Il y a des plans qui sont vraiment des clins d'œil très clairs au cinéma. C'est très, très impressionnant. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas été embarquée comme ça. Et cet aspect immersif dont vous parliez, c'est que tout le film est à hauteur d'homme. Et à hauteur d'homme, dans ces circonstances, ça veut dire les pieds dans la gadoue et la tête rentrée dans les épaules pour essayer d'éviter les balles qui peuvent survenir de n'importe où. Moi, ce qui m'a beaucoup troublée, c'est qu'au-delà de la virtuosité technique, ce que je trouve assez fou, c'est que quand on voit ces deux garçons donc partir et traverser les lignes ennemies dans la plaine, on se dit « Ouh là là, mais deux heures quand même, qu'est-ce qui va se passer là dans ces grandes étendues complètement désertiques où il n'y a personne, pas un chat à l'horizon ?» Eh ben, le scénario est quand même suffisamment malin pour créer effectivement, enfin, créer pour qu'ils aient des étapes à franchir, des rebondissements, des rencontres inattendues. Et on est avec eux pendant deux heures. On est happé. Sophie parlait de lessiveuse. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on en sort. Moi, j'ai l'impression que mon cœur s'emballait au fur et à mesure. Et là où l'image est encore une fois, au-delà de la virtuosité des 6 ou 7 plans séquences qui composent le film, c'est qu'il y a un traitement petit à petit différent. Et suite à cette fameuse scène un peu d'accalmie où il rencontre une jeune fille, le héros va devoir traverser un village en ruine où là, on est dans un film d'horreur. C'est comme si la réalité lui échappait. Ouais. Ce pauvre garçon, il sait plus où il est sonné et tout marche sur des ombres. On a ces Nosferatu, quoi, carrément. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il vit vraiment ça? Et nous-mêmes, on ne sait plus. C'est certainement le grand film de ce début d'année qui va le rester pendant plusieurs mois.
1917, et encore une fois, qui va rafler pas mal d'Oscars. De Sam Mendes, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. Tommaso d'Abel Ferrara avec sa femme, Christina Kyriak, leur fille, Anna Ferrara. Et avec Willem Dafoe, et ça dure là aussi presque 2 heures, le temps pour le cinéaste new-yorkais de faire son autoportrait en version italienne. Tommaso, incarné donc par Dafoe, est en effet un réalisateur américain exilé à Rome avec sa jeune épouse Nikki et leur fillette de 4 ans Didi, et l'ancien junkie veut mener une vie rangée, essentiellement consacrée à l'écriture de scénarios et, comme Eric, au yoga, à son cours de théâtre et à la fréquentation des alcooliques anonymes. Un bonheur de façade qui est lézardé évidemment par une jalousie maladive et une tendance à la paranoïa. Abel Ferrara, donc, fait ses débuts dans l'autofiction et se prend ici pour le Christ. Je signale une rétrospective de 4 films. Ils sont pas, à mon avis, les meilleurs. C'est New Rose Hotel, Gogotel, c'est 4h44 avant la fin du monde, et Pasolini, qui commence en même temps que sort ce Tommaso. Eric.
C'est le pamphlet le plus violent contre la sobriété, parce que quand Ferrara prenait de la drogue et de l'alcool, ses films étaient ce qu'ils étaient, mais il y avait quelque chose. Mais alors là, c'est un vide sidéral, c'est une complaisance, mais vraiment un vide terrible, avec Willem Dafoe qui joue son double hein, dans cet appartement à moitié vide où il est censé écrire un scénario, où il fait du yoga, comme tu l'as dit. Il est jaloux de sa femme, mais il a peut-être des raisons aussi, parce que moi, je serais elle, il y a longtemps je l'aurais trompé, parce que quel ennui ce type-là, qui regarde son nombril, et le film est vraiment très très ridicule, là, très vain. Quoi.
Mais je pense qu'il a voulu faire une pause, mais je comprends pas pourquoi. Son cinéma.
Ouais, on sait pas, là, on est inquiet, parce que y a des crucifixions. Alors, comme c'est Willem Dafoe, on se dit, c'est peut-être un clin d'œil à Scorsese. À un moment donné, le personnage s'ouvre le ventre, comme dans un film de Cronenberg, pour donner son cœur à des migrants. Mais ça va pas du tout, là. Faut lui offrir un peu de cocaïne ou une bouteille de bourbon, qu'il se remette à faire des films intéressants, qu'il y ait de l'énergie.
Ça fait un bout de temps, cela dit, qu'il a pas fait de films très intéressants.
Hein. C'est vrai, mais alors là, on touche le pompon, là. Mmh. C'est vraiment, Tommaso aussi, hein. Maintenant, on peut le regarder en train de préparer de la cuisine. On repart vaguement avec une recette de spaghettis bolognaise, mais c'est tout ce qu'on peut en tirer, parce que on voit vraiment pas où il veut en venir, et puis lui non plus, à mon avis. Hein, c'est...
Oh, Eric.
Charlotte.
Non, moi je suis pas d'accord. Alors c'est sûr, Abel Ferrara ouvre ses chakras, qui l'eût cru, et on peut se dire sur le papier que c'est évidemment plus cinégénique de voir un artiste torturé, électrisé par ses différentes addictions de drogue ou d'alcool, que ce papa poule qui fait la cuisine, fait les courses et fait du yoga, en effet. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez émouvant dans la fébrilité qui traverse le film, à savoir que cet homme, il aspire à la sorte de félicité conjugale ou une sorte de sérénité, et il n'y arrive pas vraiment, quoi. Et du coup, chaque action quotidienne, que ce soit effectivement faire la cuisine, s'occuper de sa petite fille et tout ça, il y a comme une menace un peu planante au-dessus de lui. Et je trouve ça assez touchant, assez émouvant aussi dans les confessions qu'il fait aux alcooliques anonymes. Et puis le film, quand même, Willem Dafoe, quoi, on peut le citer, je le trouve extrêmement magnétique, un niveau de sexitude rarement atteint. Mais oui, même quand il change une ampoule, même quand il change une ampoule, il est incroyable. Moi, j'étais assez électrisée par Willem Dafoe. Alors, je suis d'accord, c'est trop long.
C'est pas qu'on s'en fout.
Mais il y a quelque chose, moi, je trouve quand même d'assez émouvant.
Michel,
c'est un portrait du parfait phallocrate, complètement. C'est-à-dire le personnage est prodigieusement antipathique. J'admire mes confrères, même, qui ont fait un grand éloge de Ferrara récent, parce que je trouve que c'est un cinéaste qui a perdu complètement. Ah oui. C'était un très bon cinéaste de série B, Bad Lieutenant, des films comme ça, qui étaient vraiment réussis. Et puis ensuite, comme on l'a dit, c'est vrai que sans drogue, sans alcool, remplacer ça par le yoga et par le bouddhisme, ça produit aucun résultat. Il meurt de l'exil, c'est-à-dire l'exil à Rome. C'est terrible, c'est-à-dire ce narcissisme invraisemblable et cette médiocrité aussi, c'est-à-dire la jalousie qu'il éprouve. Alors il est resté perturbé avant, c'était la drogue et l'alcool qui comblaient ses perturbations. Maintenant, il l'a remplacé par des névroses, par la jalousie. Il pense que Christina Chiria, qui est d'ailleurs une formidable comédienne roumaine, avec qui il est marié, qui joue dans le film, son enfant... À Ferrara joue également dans le film. Donc c'est une histoire très intime, mais on a l'impression d'être de trop.
Sophie ?
Je suis pas emballée. C'est vrai que c'est l'histoire d'un type qui a... Enfin, c'est l'histoire d'un type qui a peur de se tarir. C'est vraiment plus que de vieillir, c'est le genre d'un type qui
tarir, tu veux dire au sens de l'alcool ou au sens
démons,
de le...
Non, mais parce que c'est des démons qui justement le rattrapent et qu'il essaie de combattre. C'est en même temps là qu'est le gisement de son art. Enfin, c'est un artiste qui se retrouve, ce qu'il raconte dans le film et ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on dirait que tout à coup il n'a plus rien à dire, parce qu'en effet son gisement était, je pense à Nos Funérailles, je pense à ces films-là qui étaient des films portés par une violence qui était spectaculaire et qu'il maîtrisait. Et là, cette violence qu'il essaie de dominer et qui suinte quand même, parce qu'il est sans arrêt déchiré entre ces deux pôles, c'est-à-dire la petite vie plan-plan où on boit plus, où on fait plus rien et où on fait du yoga, et en fait le gisement de son inspiration. C'est ce que je pense Charlotte trouve émouvant et qui moi aussi me touche un peu, mais en effet je trouve que c'est quand même bavard, que c'est quand même très long pour en arriver là.
Deux heures,
que c'est en effet... Que le personnage est assez antipathique, et je reconnais qu'en dépit de tout ce qu'on peut deviner de la détresse de Ferrara, il a raison d'avoir peur d'être tari.
Tommaso d'Abel Ferrara. Merveille à Montfermeil, le premier film comme réalisatrice de l'actrice Jeanne Balibar, qui retrouve ici Montfermeil, où elle jouait, je vous rappelle, la commissaire de police dans Les Misérables de Lajli, le film qui représente la France aux Oscars, avec Emmanuel Béard, Ramzi Bedia, Bulogier, Mathieu Amalric, Philippe Catherine, et le metteur en scène, son compagnon de théâtre, Franck Castorf, ici après le divorce de Jeanne Balibar et de Ramzi Bedia, enfin de leur personnage, vous avez compris, la nouvelle maire de Montfermeil, qui est Emmanuel Béard. Je ne sais pas comment elle a été élue, alias Emmanuel Joly, toute l'équipe municipale qui chante en chœur le temps des cerises, travaille à la création d'une école linguistique et à la préparation de la fête de la brioche, ou d'une fête d'ailleurs aussi du kimono. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, de scénario, le film proposait plutôt une suite de scénettes sur un mode satirique. Ça dure 1h50, Michel.
sous le directoire.
Sous le directoire.
Après la Révolution française, sous
le directoire. J'ai oublié, personnellement, j'ai oublié.
Il y avait les merveilleuses et les incroyables. Je trouve que la grande comédienne qui est Jeanne Balibar est une merveilleuse. Sauf que c'est pas à Montfermeil, c'est à Saint-Germain-des-Prés. Là, on est vraiment dans un humour totalement catastrophique. C'est-à-dire que elle dit que ses modèles, c'est Lubitsch et Hawks. Mais pour faire rire, ça demande un talent pour la balistique. La comédie est quelque chose d'extraordinairement organisé, construite. Tous les grands comiques, que ce soit Buster Keaton, que ce soit les Marx Brothers, que ce soit Lubitsch, que ce soit Wilder, c'était des gens qui avaient un sens extraordinaire du rythme, etc. Or ici, on a une série de plaisanteries pas très drôles. On ne rit presque jamais. Moi, je l'ai vu en salle. La salle était complètement figée. Il n'y avait pas un seul rire. Et on nous raconte que c'est la journée du short, du kimono, du kilt, de la djellaba. Il y a des formations d'une brigade d'aide sexuelle à domicile. Enfin, tout cela pourrait être hilarant. Et ça ne l'est à aucun moment. Et je trouve ça un peu triste et j'admire les éloges dithyrambiques qu'on trouve dans la presse sur ce film. Pas dans le Nouvel Observateur, je dois le dire, mais dans pas mal de gazettes.
Sophie ?
Je dirais ça un peu autrement, en disant que la loufoquerie, la fantaisie, cet humour-là, c'est des combustibles qu'il faut manipuler avec une relative délicatesse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jeanne Balibar est un peu brutale. Tout est surjoué, tout est et du coup le film paraît presque ivre de lui-même quoi et c'est ça que je trouve le plus désagréable. Ce qui est dommage parce que par ailleurs moi j'ai ri et que par ailleurs je trouve que la journée du kilt et surtout la Montfermeil English language je sais pas quoi ça c'est quand même l'école. Assez irrésistible. Mais en effet des bonnes idées qui sont jamais boulonnées, qui sont jamais enfin qui sont jamais équilibrées où tout est toujours trop, toujours plus, toujours dans une espèce d'énergie comme ça et puis portant l'étendard en plus de sa forme. Il y a quelque chose de cet ordre dans le film qui est un peu désagréable. En effet, même si...
Sans qu'on comprenne pourquoi, en plus c'est son premier
pourquoi
film quand même,
autant, quoi,
et c'est une excellente comédienne, mais pourquoi avoir fait le choix de ce film
Parce qu'elle est comme ça, elle le dit elle-même, parce qu'elle aime le saugrenu, parce qu'elle aime ce qui est complètement fou, parce qu'elle aime ce qui est décousu, parce qu'elle aime tout ce qu'on lui reproche, elle dit c'est moi, voilà.
Bon, Eric.
Comme Cocteau.
Alors... Il y a plusieurs réactions face à ce film. Ça commence par un vif agacement. Et on passe très vite à un ennui profond pour terminer dans une colère noire. Mais je n'ai jamais été aussi furieux devant un film. C'est la première fois que j'ai envie de demander à un metteur en scène de me présenter ses excuses. C'est fou. Quand je pense que je vais payer des impôts, je vais refuser d'ailleurs désormais, puisque l'argent du contribuable a forcément servi à financer en partie ce film, donc je fais la grève du fisc. Et là, mais c'est n'importe quoi, rien ne marche, tout sonne faux, c'est une poésie en carton-pâte, une fantaisie laborieuse, tout le monde s'habille en kilt, ah que c'est drôle, tout le monde est en kimono, qu'est-ce que c'est marrant, et puis ensuite on met je sais plus quoi. Il y a deux types qui donnent des conseils de sexualité aux gens, alors que quand on les voit, on leur donnerait même pas une roue de voiture à changer. Il y a une voisine qui se déguise en catcheuse mexicaine ou en bibindome, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, la pauvre Emmanuel Béard se met à piquer une colère dans un escalier, mais la scène est d'un ridicule complet. Parce qu'il y a des vrais acteurs là-dedans, mais ils sont mauvais comme des cochons, ils ne peuvent pas faire autrement avec ce qu'on leur donne à jouer. Non, mais c'est un film calamiteux. Il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des nouvelles émeutes dans ce coin-là. S'ils voient ça, ils n'ont pas mérité ça.
Sauf que s'il y a des émeutes et que
elle redevient la commissaire de Ladjly. Ouais. Elle était très bien comme commissaire
bien,
dans le film.
Et puis il y a Bulogier qui passe, j'ai pas compris ce qu'elle fichait là, elle non plus à mon avis. Mais comme Balibar est un peu un télo, évidemment, on cite Hugo, on cite Apollinaire, bah, Olivier Destin, oui, c'est Montfermeil. Mais bon, ça va, les Misérables l'ont déjà fait.
Ouais. Bulogier sort un jeune noir de rétention administrative qui a été arrêté.
Ah oui,
c'est un film très bien pensant.
Et puis il y a un couple qui divorce, et puis dans le bureau de la juge, elle est derrière ses dossiers en train de faire une réussite. Oh mais alors, mais c'est Lubitsch n'aurait même pas trouvé ça, ce nul.
Quoi, Charlotte?
Oh, c'est moche, Jérôme, de me faire passer après Eric. C'est pas sympa. Ben, j'aimerais bien essayer de sauver ce qui n'en reste, mais je peux pas, parce qu'effectivement rien n'est sauvable, quoi. C'est une catastrophe et c'est un peu triste parce que il y a des acteurs qu'on aime bien,
tous, hein.
On les aime tous dans le
otages,
film.
Là.
Et là, ils sont tellement en roue libre, ça part en sucette, mais dans tous les sens. Et effectivement, ils sont dans un surjeu et dans l'excès qui, comme le disait Michel, demande du rythme. C'est-à-dire, peut-être qu'avec du rythme, on aurait pu rire ou esquisser un sourire de quelque chose. Et il y en a, mais aucun pendant 1h50. C'est d'un ennui assez abyssal.
Qui est toujours
savoureux,
même quand il est
savoureux.
Dans
là,
des rôles sérieux.
Et
là,
et ce qui est un peu triste, c'est que...
Il a le même rôle dans le film d'Orzelli.
Ça part tellement dans un grand n'importe quoi que le film se retourne contre lui, c'est-à-dire que les bonnes intentions des personnages ou la fantaisie un peu de cette fable loufoque initiale, on la prend effectivement en grippe, on a tous envie de les fracasser contre un mur les uns contre les autres, ils sont insupportables et c'est sortez-moi de là, quoi.
Bon, et le titre, c'est donc Merveille. À Montfermeil, le premier film de Jeanne Balibar. Est-ce qu'il y a des défenseurs de ce film ici? Non. Personne.
Moi, j'ai envie de sauver un film qui a été très maltraité unanimement au dernier masque. C'est Les filles du docteur March, qui est pour moi un chef-d'œuvre, une comédie dramatique extraordinaire.
Qu'est-ce qu'elles font à Montfermeil?
Mais je te soutiens.
J'ai pas reconnu Balibar.
Voilà une réalisatrice qui a le sens du rythme, de la fantaisie.
Oui, mais là, vous rigolez, mais les prochains critiques de la prochaine tribune vont me dire dans ce cas-là que Merveille à Montfermeil de Balibar est un très grand film.
J'attends de les écouter.
Bah oui.
Ils n'oseront pas.
Les Siffleurs, un film qui était en compétition à Cannes, du roumain Corneliu Porumboiu avec Vlad Ivanov, Catherine L. Marlon ou Marlon, je ne sais pas comment on dit en roumain, Rodissa Lazar, un polar qui commence à Bucarest, en compagnie donc de l'inspecteur Christy, qui est joué par l'imperturbable Vlad Ivanov, un flic corrompu par les narcotrafiquants locaux et bientôt entraîné par une femme fatale, forcément prénommée Gilda, c'est donc Catherine L. Marlon ou Marlon, sur l'île de la Gomera aux Canaries, la propriété de cette île volcanique, et qu'on y parle, et tout ça est vrai, hein, on y parle, si j'ose dire, en tout cas le silbo, qui est une langue sifflée ancestrale, transcrite du castillan, qui permet aux habitants de communiquer entre eux d'un sommet à l'autre. Et Christy compte bien utiliser le silbo pour permettre l'évasion d'un trafiquant de drogue incarcéré à Bucarest qui seul sait où se trouve caché un pactole de 30 millions d'euros. C'est donc le 7e film de Porumboiu, je vous rappelle 12h08 à l'est de Bucarest, et qui là sort le grand jeu, il y a tout, hein, du polar, du western, des clins d'œil à Hitchcock et à John Ford. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'amuse de la corruption qui est dans une Roumanie où tous les autres cinéastes, quasiment tous, n'en finissent pas de la dénoncer. Et puis, il y a aussi quand même du mauvais goût. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt réjouissant. Vous me dites ce que vous en pensez, Charlotte.
Dans ton résumé, Jérôme, tout est dit. C'est-à-dire un flic corrompu, une femme fatale, des rebondissements, des trahisons.
Je ne dis pas comment ça se termine.
Je ne le dirai pas non plus. C'est vrai que Porumboiu, il use et abuse de tous les codes du polar. Mais il le fait avec un tel humour à froid, une mise en scène au cordeau et une imprévisibilité totale du scénario.
Et un plaisir.
Que c'est, ça procure un plaisir complètement dingue au spectateur. Alors, moi, je regrette que la narration soit alambiquée de manière un petit peu artificielle. On ne comprend pas tout, mais ce n'est pas grave.
Pourtant, c'est clair. Là même,
J'ai eu des petites absences, alors, mais je trouve que c'est compliqué de manière un peu gratuite. Mais au-delà de ça, il y a un tel plaisir, parce qu'il y a cette originalité, effectivement, de la langue sifflée qui donne lieu à
ça a l'air très compliqué.
Très compliqué. L'apprentissage, on le voit, c'est extrêmement drôle. Moi, ça me rappelait un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça n'a rien à voir, mais Jean-Pierre Bacri qui apprenait l'anglais dans un des films où il apprenait à dire the. Bon, là, notre pauvre héros doit apprendre à
Est-ce que tu sais, Charlotte, qu'il est parlé par 22 000 personnes?
Tu me l'apprends, Jérôme.
Et que l'UNESCO, c'est dans le dossier de presse, hein, et que l'UNESCO l'a déclaré patrimoine immatériel de l'humanité.
Eh ben alors, on va tous se mettre à siffler, on peut faire notre critique comme ça. Ouais. En tout cas,
non, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça.
Beaucoup plus, oui, je vais aller prendre des cours. En tout cas, il y a des scènes de comédie de pure burlesque. Voilà, il y a un plaisir immense pour le spectateur, c'est jouissif. Et effectivement, voir un réalisateur roumain avec autant d'humour, on n'a pas toujours l'habitude.
Et puis aussi léger avec la corruption.
Ionesco.
Ionesco, oui, mais en cinéma.
On parlait des cinéastes contemporains.
Ses compatriotes ne sont pas connus pour être des bouts en train exceptionnels.
Je me souviens, d'ailleurs, sous le directoire, il y avait un écrivain roumain dont j'ai oublié le nom, mais qui était féroce. Hein,
pour, à chaque repas de famille. Non,
ce que je voulais dire, c'est que la Roumanie a une grande tradition.
De
l'absurde. Tristan Zara, Ionesco,
bien sûr,
etc.
Mais au cinéma, avoue, Michel, que c'était pas flagrant jusqu'à présent.
Ils ont de très grands cinéastes dans une tendance naturaliste, réaliste, c'est sûr. Palme d'or à Cannes.
Je le sais bien.
Bon, bah, puisque vous avez peut-être pris le micro, dis-nous ce que tu penses des siffleurs.
Ah, ben moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que, effectivement, Porumboyu, c'est un peu le trouble fait du cinéma roumain. C'est-à-dire là où ses camarades sont dans le sérieux et dans le drame.
Et dans le politique.
Et dans le politique. Lui, moi, je pense un peu à un Raoul Ruiz roumain. C'est-à-dire un peu comme chez Raoul Ruiz, où il y a une sorte de fantaisie. Alors, dans ce film, c'est des lieux très froids, très anonymes, des personnages opaques et taiseux. Tous les personnages sont opaques et taiseux. Et il y a une sorte de logique de l'absurde. C'est-à-dire que le film est constamment en distanciation par rapport à son sujet. C'est-à-dire que c'est effectivement un film policier, mais qui suit les codes tout en les travestissant. Et c'est vraiment un grand régal. Le film a été un peu mal reçu à Cannes. Je ne sais pas, peut-être que le festival ne se prêtait pas à ce genre de film qui est très, très original. Mais en tout cas, c'est un film qu'il faut voir parce qu'il y a une vraie maîtrise d'une sorte d'humour noir propre à Porumboyu.
Eric ?
Moi, je suis tout à fait pour cet éloge de la corruption généralisée parce que ça donne un film qui est plein comme un buffet garni. Il y a de tout là-dedans. Il s'amuse, il y a du suspense. Il y a cette fille-là qui s'appelle...
Catherine L. Marlon.
Un truc comme on n'en a pas vu depuis
des
années.
Un truc.
C'est une apparition divine. C'est la plus belle femme qu'on ait vue sur un écran depuis
Gilda.
Depuis Gilda, pratiquement, oui, mais même Rita Hayworth peut aller se rhabiller, si on peut dire. Et non, il y a un humour, et puis cette idée d'apprendre à siffler pour que personne ne comprenne, parce que c'est détruant.
Oui. Et c'est très marrant. Sauf les gens de Lille, en fait.
Oui, et le film est un peu sec, comme les rochers des Canaries, et ça fait partie du jeu, cette construction en chapitre, c'est ce tapis qu'on tire sans cesse sous les pas du spectateur, parce que... Charlotte a raison, moi j'ai pas tout compris non plus, mais ça ne m'a pas gêné du tout parce que c'est tellement excitant, tellement brillant, tellement cynique.
Et inventif. Très inventif.
Et l'image est belle, le film est carré, et c'est très bien.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à l'année dernière, je ne connaissais rien du Ciblot. Or, on a vu deux films. L'année dernière, un film qui s'appelait Cybelle, qui était entièrement consacré à ce langage sifflé, qui a eu des prix partout. Et c'est vrai que c'est un très joli film.
Il n'y a pas seulement les 22 000 personnes. Dans la salle qui passait le balibar, les gens savaient le faire.
Sophie.
Je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose de très réjouissant dans le film. Et Porumboyu est un très grand cinéaste, et notamment du secret. Hein, c'est un grand cinéaste. C'est pas pour rien qu'il est roumain, parce que on sent que il est tout ce qui est surveillance, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est exhumation des vérités, tout ce qui est, enfin, il a une façon de son film précédent, ou l'un de ses films précédents s'appelait Le Trésor, et c'était l'exhumation d'un trésor, et c'était une fable métaphorique formidable, etc. Mais là, franchement, j'ai été déçue. Je pense que au niveau du scénario, il y a un vrai problème. Et je pense qu'à la fin, on ne la racontera pas, évidemment, le dernier retournement de la fin, je trouve qu'il est léger, parce qu'il est scénaristiquement, je suis pas sûre que Porumboyu ait vraiment sache exactement où il en est.
Je
trouve que il y a quelque chose qui accouche d'une souris dans le film. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait attention pour justement suivre cette sorte. Alors en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui se veut léger, c'est quelque chose qui se veut ludique.
Pas simplement quand le flic commence à être lui-même pisté par les flics.
Oui, parce que tout le monde se surveille.
Alors, de corruption, ça devient tout à fait vertigineux là.
Oui, mais justement, cette espèce d'enchâssement de fragments gigognes comme ça, de retournement de situation. situation, etc. Au bout d'un moment, pour que cette fin existe, il faudrait autre chose. Enfin, je suis désolée, mais bon, peu importe. Je trouve que c'est pas très, très, très facile. Et de toute façon, que c'est un peu décevant à l'aune de tout ce qu'on nourrit pendant le film, quoi. À l'aune de tout ce qui est dit. Alors, certes, avec un hommage au cinéma qui est réjouissant, ils se donnent rendez-vous à la Cinémathèque. Ça, j'adore cette scène où il donne à sa chef rendez-vous à la Cinémathèque. Il y a des tas de choses comme ça qui sont formidables. Gilda, évidemment, et compagnie. Mais quand même, il y a cette petite déception de ce film qui demande aux neurones de se mettre en branle. Et
qui demande aussi d'accepter un peu le mauvais goût assumé, je trouve, de ce film.
Mais le mauvais goût,
je trouve assez réjouissant.
C'est plutôt le...
Les Siffleurs, c'est donc le film de Corneliu. Porum Boyou, je ne rêve que de vous. C'est signé Laurent Henneman. Et c'est avec Elsa Zilberstein, Hippolyte Girardot, Émilie Dequesne. L'histoire vraie de Jeanne Lévillier, qui fut la troisième épouse et le dernier amour de Léon Blum, qui avait 25 ans de plus qu'elle. Ils s'étaient rencontrés en 40 sous l'occupation. Ils se sont mariés en 43 dans le camp de Buchenwald, où Blum avait été déporté. C'est un film inspiré du livre de Dominique Messica, signé donc Henneman, qui a réalisé, mais pour la télé, hein, pas pour le cinéma, des biopics notamment de René Bousquet, Mendès France ou Bérégovois. Franchement, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment dire, Michel.
Mais moi, ce que je peux en dire, c'est que j'ai vu des critiques, mais assassines, que je ne comprends pas. Non pas que c'est un grand film, c'est un film assez illustratif, incontestablement, mais qu'on admet quand ils viennent de l'étranger. C'est-à-dire, il y a des films anglais qui sont médiocrement ou pas très bien réalisés, mais qui nous apprennent beaucoup de choses sur un moment de l'histoire.
Tu penses à
sur
quoi?
Churchill ou sur d'autres.
Bah, Churchill n'était pas bon, les films.
Mais tout de même, ils sont accueillis pas du tout de cette façon. Là, il y a une violence contre ce cinéma qui est toujours l'idée que le cinéma de papa ne doit plus exister. Moi, je pense que ce film intéressera beaucoup de spectateurs. D'abord parce que je trouve que les comédiens sont très bien. Je trouve par exemple que Laval, qui est interprété par Torreton.
Oui, c'est une scène.
Tout à fait. Oui, mais c'est une scène. C'est une scène. J'ai entendu dire que ça ne nous parlait absolument pas du contexte politique. C'est pas vrai du tout. C'est le contexte politique en réflexion par rapport à l'histoire centrale, qui est une histoire d'amour fou d'une jeune femme qui tombe amoureux d'un homme de 75 ans avec un fossé générationnel considérable et qui est folle de lui et qui va le suivre jusqu'à Buchenwald. Donc, on apprend beaucoup de choses.
Jeune femme déjà deux fois mariée, d'ailleurs.
Oui, une femme déjà deux fois mariée qui divorce et qui va se remarier à Buchenwald avec Blum. Donc, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Je trouve que Hippolyte Girardot joue très bien son rôle. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est un grand film. Je dis simplement que c'est un film éducatif, qui n'est pas... Moi, quand je vois Merveille à Montfermeil, franchement, je préfère un film honnête plutôt que le film de Jeanne Balibar qui a des éloges dithyrambiques. Je trouve ça d'une injustice profonde.
Moi, Charlotte, je vais pas du tout me risquer à comparer les deux films qui ont absolument rien à voir.
Non, mais je parle de la réception
oui,
et du snobisme.
Oui, mais pour celui-là, quand même, Michel, c'est un exploit qu'avec un sujet aussi romanesque, aussi fort, qui met en scène des protagonistes historiques à un moment très douloureux de leur vie, on en fasse un film aussi plat et aussi laid. Je regrette. L'image est immonde. Les comédiens sont très, très mal filmés, très mal éclairés. On en est à voir les raccords de Rouge à lèvres d'Elsa Zilberstein. C'est pas possible. Les dialogues, ils ont l'air d'être sortis d'un manuel de scolaire pour collégiens. Tout est extrêmement pédagogique. Quand à un moment, on parle de Léon Blum. Ah, mais c'est à lui que vous devez les congés payés. Enfin bon, on nous donne toutes les infos comme ça, enfin, qui sont sorties de nulle part. Moi, je trouve ça dommage. Alors, oui, c'est un joli rôle pour Elsa Zilberstein, mais enfin, le film n'a aucune puissance, aucun lyrisme, et ça reste très très plat.
Sophie.
Oui, il tombe, là je suis désolée Michel, mais ça tombe dans tous les écueils du film historique reconstitué, comme je te pousse, c'est vraiment,
la manière dont c'est filmé, je trouve.
Évidemment, parce qu'il n'y a pas de mise en scène, et tout ce qui se passe, non seulement les personnages sont réduits à des stéréotypes, mais en plus de ça, autour des personnages, il n'y a rien qui est tissé de façon à les faire vivre, à les faire exister, c'est empaillé. C'est complètement mort. Il n'y a pas l'once d'une vie. Tu parles de Léon Blum dont on fait dire l'homme des congés payés. Bon, ce qui est évidemment d'une maladresse insigne. Jeannot, donc la fille que joue, celle qui va devenir la femme de Léon Blum, que joue
Jeanne Lévillier.
Jeanne, oui, mais qu'on appelle Jeannot. René, qui est la bru de Léon Blum, ne l'aime pas beaucoup entre les deux parce que il y a une complicité féminine entre elles à un moment donné. Bon, à un moment donné, elles se disputent, je ne sais pas quoi, elle lui dit mais pourquoi tu m'aimes pas? Et l'autre lui répond, tu es une femme dérangeante. Bon, c'est un truc absurde. On dit jamais ça dans la vie.
C'est une femme dérangeante.
Mais oui,
sa passion.
Je te dis pas que c'est pas vrai.
Sa passion pour un homme beaucoup plus âgé qu'elle.
Mais Michel, je te dis pas que c'est pas vrai.
Dérange autour d'elle.
Oui, mais tu dis pas ça dans la vie. Dans la vie, tu dis tu m'emmerdes.
Non, mais beaucoup de choses dans la vie.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme les congés payés. Rien n'est vrai. Rien. Tout sonne faux. Tout sonne en effet comme si ça sortait d'un livre pour les enfants, quoi. Enfin, tu vois, il y a absolument aucune vérité. Et c'est même embarrassant parce qu'à la fin, quand on arrive à Buchenwald et que où eux ont été faits prisonniers, mais dans des conditions évidemment bien plus confortable que ce
que Mandel est exécuté.
Non, mais je te dis pas le contraire, et leur vie étant, et ils ont peur pour leur vie et tout ce que tu veux, mais eux-mêmes découvrent l'horreur des camps, et bien que ce soit pétri de bonnes intentions, on en est embarrassé. La façon dont ça se passe, dont c'est filmé, dont c'est montré, la découverte qu'ils font des camps et de la réalité des camps, c'est très embarrassant, quoi.
Éric ?
Bon, c'est un brave téléfilm, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein, et puis, est-ce que c'est si éloigné que ça du J'accuse de Polanski ?
Ah oui, alors, ça n'a rien à voir.
Ça m'a fait penser à la reconstitution, le côté on présente les personnages par leur prénom et leur nom en expliquant ce qu'ils font dans la vie. Et oui, c'est le téléfilm comme on en avait il y a...
Le film de Polanski n'est pas un téléfilm.
Ben non,
c'est
il n'y a
pas de mise en scène.
Non, mais c'est c'est une histoire qu'on ne connaissait pas, moi, enfin personnellement. Et on voit que ce Léon Blum était quand même un chaud lapin. Et c'est ça la bonne surprise. Mais c'est, le film est maladroit parce que évidemment Elsa Silberstein lit du mariage de Blum pour qu'on sache bien ce qu'il a fait avant. Et puis il y a des passages érotiques parce que il lui envoie des lettres. Alors il s'intéresse beaucoup à l'anatomie d'Elsa Silberstein, mais pas seulement à son front, même s'il doit être très populaire. Il lui écrit « Je pense à votre fente ombreuse ». Ah bah. J'ai pas envie de lire les livres de Léon Blum. En tout cas, le film aura eu cette utilité.
Il a fait de très beaux... Je te conseille notamment un livre qu'il a écrit sur Stendhal, qui est un des meilleurs livres sur Stendhal qu'on ait pu écrire. Je ne rêve que de vous, de Laurent Edman. L'adieu de la sino-américaine Lulu Wang avec la rappeuse et actrice... Awkwafina avec Zima, Xipayo et Billy, qui est le double de la réalisatrice, vit aux États-Unis où elle apprend que sa grand-mère, qui elle vit à Changchun en ex-Mandchourie, est atteinte d'un cancer du poumon et qu'elle est en phase terminale. Billy part alors pour la Chine afin de retrouver cette grand-mère tout en se gardant bien de lui révéler qu'elle est condamnée. Film donc sur le mensonge face à la maladie, mais aussi sur tout ce qui peut différencier à ces moments-là l'Occident de l'Extrême-Orient. Éric ?
C'est un peu comme si la grand-mère de la Boum avait des métastases et qu'on disait à Vic, surtout, faut pas qu'elle soit au courant. Alors, le film a ce côté un peu à la fois mélodrame et comédie légère. C'est assez curieux comme ton, parce qu'il y a l'opposition, comme tu dis, entre New York et puis cette
comédie
ville.
Comédie légère.
Il y a une délicatesse, j'ai trouvé une modestie, une discrétion.
Mais ce qui est bien, c'est que la grand-mère, elle a l'air plutôt pimpante. C'est ça qui est intéressant, justement.
Elle est pimpante, et puis surtout, il y a une ambiguïté, parce qu'on se dit, est-ce qu'elle est si dupe que ça de sa situation ? C'est bien, ça. Et puis, on voit toutes les familles se regrouper, organiser un mariage pour que tout le monde puisse se réunir, sans dire qu'en réalité, ce serait en vue de l'enterrement de l'aïeul. Non, il y a quelque chose. Et puis, cette fille, là, avec un petit anneau dans le nez, là, qui est complètement égarée, qui s'appelle Billy, avec sa grand-mère, et qui est le petit mouton noir, parce que tout le monde ment, et c'est de l'utilité du mensonge aussi, le film. Non, il y a vraiment quelque chose. C'est un petit peu languissant, mais le film a un charme, et puis je ne savais pas que cette fille est thérapeute, mais là, en tout cas, elle est très calme.
Sophie.
Oui, le carton qui démarre le film, basé sur un vrai mensonge ou sur un mensonge réel, donne la tonalité du film. En effet, c'est un film qui pourrait être triste parce que c'est un film surtout sur l'exil et sur la séparation et sur le fait d'être séparé de ceux qu'on aime, qui est rattrapé par cette joie, même si elle est feinte. C'est quand même un film assez joyeux où en effet, Billy, la petite fille de Nei Nei, arrive et débarque avec une mine renfrognée et impose un peu sa gravité dans une assemblée qui se force beaucoup à rire, etc. C'est sympathique et en même temps, je trouve que c'est une très belle idée de départ. Mais le film rame un peu quand même. Il y a des scènes qui n'en finissent pas, qui sont un petit peu là. me semble-t-il, pour remplir un petit peu. La salle au cimetière n'en finit pas aussi. Enfin, il y a comme ça.
Des... Elle est rigolote, là.
Non, mais c'est très curieux parce que le film, par moments, a des percées magnifiques, des choses très belles. Et puis, soudain, tombe dans quelque chose d'un peu vulgaire, d'un peu commun. Non, mais je trouve que le film est un peu faible par moments, avec des questions intéressantes et des enjeux intéressants, notamment sur l'exil et sur le fait d'être d'une autre culture, enfin, et de devoir, comparer les. Parce qu'il y a aussi dans la famille, une partie de la famille qui vient du Japon, donc il y a des conversations qui n'en finissent pas. Mais je trouve qu'il y a une volonté de faire rire dans le film, au-delà du fait que chacun feint la joie. Il y a une vraie volonté de faire rire de la réalisatrice qui se retourne contre le film et qui est quand même très surlignée, très lourde et qui, moi, m'a un peu gâché le plaisir.
Michel.
Oui, moi, je trouve que le film est touchant à cause des comédiens. C'est-à-dire, je pense que la jeune fille américanisée et la grand-mère sont vraiment des personnages attachants. Ce qui est intéressant aussi, même si c'est un peu convenu, c'est le rapport générationnel. On a déjà vu ça mille fois. Mais ce qui est intéressant, c'est ce mariage du petit-fils qui sert en fait à célébrer la grand-mère dont tout le monde sait qu'elle va mourir, mais on veut pas lui dire. Et aussi l'opposition entre la transparence américaine à laquelle cette jeune chinoise est convaincue d'appartenir, elle a compris qu'elle veut tout dire à sa grand-mère, mais elle le dit pas parce qu'on lui dit il faut pas le dire, et d'autre part le non-dit qui est propre à la culture orientale. Tout ça est intéressant, mais je trouve qu'il y a pas de cinéma. Il y a pas de cinéma, c'est-à-dire, je veux dire que le point de vue de la mise en scène, c'est d'une platitude. Alors vous l'avez dit, et je vous ai pas contredit sur le film de Laurent Edman, mais là, il y a une mise en scène extrêmement plate, qui est sauvée uniquement par les comédiens et par le sujet.
Tout a été un peu dit, je rejoins tout le monde. Je trouve que le sujet est plus intéressant véritablement que son traitement, même si je trouve qu'elle arrive quand même à faire une comédie dramatique légère, c'est-à-dire ça tombe jamais dans le pathos ni dans le mélo, mais c'est pas une franche comédie non plus. Et là où ça pourrait être drôle, c'est-à-dire à jouer sur les malentendus de situation, à savoir pourquoi tout le monde est là, ou des malentendus de langage, puisque la partie chinoise de la famille ne comprend pas l'anglais, donc elle, cette petite Billy, elle peut parler à ses parents ou à des docteurs en anglais, devant même la grand-mère, en lui disant, il lui reste combien de temps? Enfin, c'est devant elle, la grand-mère. Hein, qu'est-ce qu'il dit, quoi? Bon, il pourrait y avoir des malentendus un peu plus drôles que ça. Ils le sont pas vraiment. Je trouve que le film a beaucoup de charme, a de la légèreté. Il est assez juste dans les rapports familiaux qui sont tendus, comme dans n'importe quelle famille, mais sans aller dans l'hystérie. Du tout. Après, de là à ce que Awkwafina, donc cette jeune rappeuse, elle a quand même gagné le Golden Globe de la meilleure actrice, hein, à la barbe de Cate Blanchett et Emma Thompson pour ce film, c'est peut-être un peu too much.
L'adieu, c'est signé Lulu Wang. Une petite poignée de minutes pour évoquer Underwater, le film de William Eubank avec le commandant Vincent Cassel et l'ingénieure électronicienne Kristen Stewart. Donc il y a une plateforme de... Tu l'as vu ou pas, Eric, finalement?
Non.
De forage à 10 mm de profondeur sous la mer. Peut-être que tu l'as vu d'ailleurs, Charlotte, toi, avec le système...
Ah non, alors ce coup-ci, j'ai eu peur d'avoir trop peur.
L'équipe doit survivre puisqu'elle est piégée sous l'eau et remonter à la surface pour affronter d'étranges créatures. Pour moi, c'est un peu un mix d'aliens et du monde du silence de Cousteau. Mais vous me dites vraiment très rapidement, Charlotte.
Très rapidement, il peut y avoir un petit plaisir coupable à voir un film d'action qui est un peu une série B. C'est pas désagréable, mais c'est extrêmement conventionnel. Dès le début, il y a 6 survivants à ce tremblement de terre. Donc la question du spectateur, c'est combien seront-ils à l'arrivée? Donc c'est un mix de Abyss, Alien et Deep Sea Nègre aussi. Bon, on apprend qu'on peut provoquer une explosion atomique juste en tapant sur la barre d'espace d'un vieil ordinateur tout pourri au fond de l'eau. Ça, j'étais quand même assez stupéfaite. Maintenant, le problème, c'est que le réalisateur n'arrive pas à créer du suspense, de la tension et de la peur autrement qu'avec des jumpscares. Donc, il y en a tout le temps dans le film, ce qui devient assez pénible. Donc, pour ceux qui connaissent pas Eric, les jumpscares, c'est quand tout d'un coup, dans l'image, il y a un monstre qui arrive, enfin un monstre ou un élément qui arrive subitement, donc généralement avec de la musique et des cris. Voilà, ça se regarde sans déplaisir. Mais
on peut dire que Vincent Cassel est très différent que dans Hors Normes. C'est un autre visage, certes, de Cassel. Michel?
Ça n'a aucun intérêt. Mais franchement, c'est une ressucée de Alien, de Abyss, des films de Cameron, de Ridley Scott. Oui. C'est un film catastrophe. D'abord, on ne voit Kipwick à 10 000 mètres de fond. Tout est noir.
On voit Kipwick.
Kipwick. Vraiment. C'est qui, ah ouais, qu'on voit rien. Il y a des monstres qui apparaissent, un peu comme dans Alien, mais on les voit à peine. On se dit, bon, il y a Kristen Stewart, c'est tout, qui est séduisante, peroxydée, toujours en sous-vêtements.
C'est ça, Ripley, oui, le crâne rasé comme Ripley.
Voilà.
Très clairement.
Bon, mais en dehors de ça, c'est tout de même d'une tristesse totale, parce que ce garçon vient de la télévision, c'est son premier film. Quand on pense ce qu'étaient les premiers films de tellement grands cinéastes il y a 20 ans ou il y a 15 ans,
et
on voit que Hollywood ne donne plus de chance. Non, mais on prend vraiment des yes-men.
Ça empire.
Il faut prendre des gens, des yes-men, comme ce garçon, qui finalement a accepté de faire ce film, parce que probablement aucun grand metteur en scène n'accepterait de traiter un sujet pareil.
Ouais. Sophie.
Je ne l'ai pas vu, je suis désolée.
Bon, ben c'était Underwater de William Eubank. Et on termine avec des conseils, et on va commencer avec Sophie.
Alors, je recommande chaudement Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, qui est un dessin animé. Moi, je ne suis pas très fan des films d'animation, et celui-là, je dois dire qu'il est absolument magnifique. C'est un très beau film sur l'adolescence. Et ce qui est magnifique dans le film, c'est qu'il mêle un souci réaliste extrêmement aigu à une féerie complètement totale. Et si je peux, je voudrais bien recommander aussi Swallow, parce qu'il est sorti aussi et la semaine dernière. Et c'est un très beau film de Carlo Mirabella Davis, qui est un film assez étonnant sur une femme qui est mal dans sa vie et qui a subi un syndrome dit de Pica. Elle se met, parce qu'elle est enceinte, à avaler des objets. Et partant de là, le film est une trajectoire étonnante et est un assez beau film sur l'émancipation d'une jeune femme qui se croit heureuse et qui n'est pas heureuse.
Le conseil de Michel.
Non, moi, c'est un coffret de DVD, parce que tout de même, les DVD sont en train de ressusciter complètement des cinéastes. Je me rappelle que dans ma jeunesse, il y avait trois grands cinéastes allemands. C'était Murnau, c'était Fritz Lang et c'était Pabst. Aujourd'hui, on a complètement oublié Pabst, même si la Cinémathèque a fait récemment un hommage. C'est tout de même l'homme qui a dirigé Louis Brooks dans ses chefs-d'œuvre. C'est tout de même l'homme qui a dirigé Greta Garbo. Donc, il y a 13 DVD, depuis La rue sans joie, Loulou, Le journal d'une fille perdue, jusqu'à ses films parlants comme Quatre de l'infanterie, L'opéra de Katsu, La tragédie de la mine. C'est une redécouverte parce que Pabst représente le réalisme. Alors que les autres sont beaucoup plus proches de l'expressionnisme. Lui représente les réalistes. C'est un cinéaste très politique. Et je pense que c'est une vraie résurrection grâce à ce coffret chez Tamassa.
Le conseil d'Éric.
Un film qui est sorti en décembre, qui est encore un petit peu à l'affiche, qui s'appelle Liliane d'Andreas Horvath. C'est l'histoire d'une femme originaire de Russie qui n'a plus ses papiers aux États-Unis et qui veut rejoindre son pays natal à pied en passant par l'Alaska. C'est tiré d'une histoire vraie avec une actrice prodigieuse qui s'appelle Patricia Planick et elle ne prononce pas un mot de tout le film et le film est complètement déchirant et ça rappelle ces films des années 70 comme par exemple Vanda de Barbara Loden.
Et tu es sûr qu'on peut encore le voir, hein?
Oui, j'ai vérifié. On se dépêche, cher,
Charlotte.
Un documentaire, Les vaches n'auront plus de nom, d'Hubert Charuel. Vous vous souvenez tous de Petit Paysan, ce grand succès magnifique en 2017. Ouais. Eh bien, Hubert Charuel a filmé ses parents, Sylvaine et Jean-Paul, donc dans la ferme agricole dans laquelle était tourné le film, qui doivent prendre leur retraite. Jean-Paul, son papa, il en peut plus des vaches après 30 ans. Et sa maman, Sylvaine, elle est encore profondément attachée à ses vaches. Elle a pas envie de les quitter, mais elle peut plus continuer toute seule. Et donc, elle va devoir accompagner ses vaches jusqu'à la ferme voisine, qui est plus grande et beaucoup plus industrialisée. Et Hubert Charuel filme avec énormément d'humour et d'émotion. Bah, la fin d'une relation avec les animaux. Le titre du film, Les vaches n'auront plus de nom, c'est parce que ses parents donnaient des noms aux vaches, mais dans la nouvelle ferme, ce sont des numéros. Les vaches n'auront plus de nom. Alors, ça sort, mais guettez-le. Peut-être que ça va passer à la télé. Ça, c'est diffusé dans beaucoup de festivals.
C'est un peu
France.
Le bonus de Petit Paysan, quoi.
Exactement. C'est réjouissant. Ça dure 50 minutes.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site de l'émission France Inter. .fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Charlotte Lipinska, Michel Simon et Éric Neuhoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir au théâtre de l'Alliance Française à la Technique, et je les remercie, il y avait Claire Levasseur, Tahar Bouklifa et Lucas Derode. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, c'est le jeudi 30 janvier. Je vous attends nombreux au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. On parlera de littérature dans une semaine. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.